Excellent mercredi. Merci de nous avoir choisis pour passer la matinée. C'est toujours un bonheur de vous savoir à l'écoute et un bonheur aussi de regarder la météo. Oui, aujourd'hui, faible possibilité d'averse, mais écoute, je regarde ça, le 27, 28, 30, 29 degrés. Interdiction d'avoir la baboune aujourd'hui, OK? On garde le sourire, il fait beau, il fait chaud. Et ce matin, d'ailleurs, l'horticultrice Marthe Laverdière va encore mettre du soleil dans notre matinée parce qu'elle sera avec nous pour nous parler notamment d'avoir un potager en santé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a des petits trucs? Et si vous avez des questions, et ça, je sais que vous en avez pas mal, parce que je reçois beaucoup vos questions par courriel, et c'est parfait. Vous pouvez déjà nous les envoyer. Donc, allez sur soit le site Internet du 98.5 FM. Vous pouvez bien sûr m'écrire via Facebook ou encore par texto. Tous les moyens sont bons. Et c'est le temps des vacances, des voyages. On va en parler dans la prochaine demi-heure avec nos invités, parce que ça arrive de plus en plus souvent, et peut-être ça a été votre cas si vous avez pris vos vacances récemment dans une destination où il y a beaucoup de monde. Tu sais, honnêtement, des fois, tu t'en vas dans un endroit, tu dis, oh, ça va être idyllique, c'est bucolique, tu regardes les guides touristiques, c'est magnifique. Et là, tu arrives là, il y a tellement de gens, la file d'attente, c'est pas possible, que ça devient désagréable. Et c'est le cas pour plusieurs destinations, Venise, entre autres, Dubrovnik. Il y a aussi la ville de Québec, de plus en plus. C'est ce qu'on appelle, en fait, le surtourisme, le tourisme de masse. Donc, on va se demander, est-ce qu'il y a des solutions pour contrer, justement, le tourisme de masse? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être... Tu sais, dire, ben moi, j'aimerais ça aller à Venise, mais comment je peux m'organiser peut-être pour faire un détour ou peut-être essayer différentes choses où il y aurait peut-être moins de gens. Avec nos invités, de grands voyageurs, j'ai les envies quand même pas mal. Moi, je suis une passionnée de voyage. Lydiane Saint-Onge, que vous connaissez par Lydiane autour du monde. Salut, Lydiane.
Salut.
Ça va?
Et ça va bien, toi?
En vacances à Montréal.
En vacances à Montréal. J'aime Montréal.
Jadrino Huot, en direct de nos studios à Gatineau, chroniqueur voyage et producteur de la série Passeport pour le monde. Bonjour, Jadrino.
Bonjour.
Et aussi, directement de Québec, il est présentement à New York, Éric Bilodeau, qui est directeur des communications et du marketing à l'Office du tourisme de Québec. Bonjour, Éric.
Bonjour.
Et là, faut dire que vous êtes de Québec, mais à New York présentement pour recevoir un prix du magazine américain Travel and Leisure pour la 4e année consécutive parce que Québec est encore la meilleure ville touristique. Bravo.
Au Canada, oui. Selon les lecteurs du célèbre magazine Travel and Leisure. Et hier soir, donc, c'était la soirée gala pour la remise des prix. Alors, plein de destinations dans le monde gagnantes de différents prix étaient là. Alors, bien sûr, on était là. On a profité aussi du voyage pour rencontrer des médias. Hier, on a rencontré l'équipe voyage de New York Times. Puis, tout à l'heure, on rencontre l'équipe éditoriale du Travel and Leisure, justement pour leur parler de certaines nouveautés qui s'en viennent à Québec et de ce qu'il faut qu'ils... ce qu'on aimerait qu'ils parlent en 2020.
Donc, avec la médiatisation, avec les prix, Québec est une ville touristique très prisé. D'ailleurs, on a vu dans l'actualité que le maire Labeaume disait, ben, écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de gens à Québec, notamment dans le Vieux-Québec. Est-ce que ce serait peut-être possible d'offrir des forfaits pour prévenir le tourisme de masse? Donc, on aimerait peut-être rediriger les touristes de la capitale vers l'est du Québec, de Gaspé à Tadoussac. Est-ce que Québec, finalement, est trop victime de son succès?
Bon, d'abord, c'est un beau problème. Hein?
Oui.
On a fait beaucoup de travail, on a fait beaucoup de promotion dans les dernières années, puis ça rapporte. On voulait être une ville reconnue mondialement, touristiquement. Alors, on est sur la bonne voie. Mais maintenant, on parle beaucoup de surtourisme. Vous avez décrit des situations là où il y a beaucoup, beaucoup de monde, comme Venise, comme Barcelone. Puis je suis ici à New York. Si on pense qu'il y a du monde à Québec, là, on va dire à New York qu'il y en a pas mal plus qu'à Québec. C'est pas du surtourisme comme dans ces villes-là. Barcelone reçoit 40 millions de touristes par année. Nous, à Québec, on en reçoit 4,7 millions. Mais on a des journées, par contre, de forte affluence. Et ça, on en est bien conscient. Puis il y a du travail qui se fait en conséquence. Je vous l'explique un peu dans les prochaines minutes. Mais c'est sûr que l'attrait numéro un de la ville de Québec, c'est le Vieux-Québec, hein, son vieux quartier historique, reconnu par l'UNESCO, d'ailleurs. Et juste ce label-là de l'UNESCO fait que ça attire des touristes de partout dans le monde pour venir voir notre histoire de 400 quelques années. C'est vieux pour nous, mais c'est pas vieux pour d'autres. Et c'est vraiment l'attrait numéro un de la ville. Mais par contre, effectivement, il faut s'assurer que c'est les touristes qui vont venir vont vivre une belle expérience pour pas justement vivre du surtourisme. Donc ça, on en est bien conscient, puis on veut aussi continuer de s'assurer du bien-être des citoyens. Il faut que tout le monde réussisse à cohabiter ensemble sans être au détriment de l'un ou de l'autre.
Et le profil type de visiteurs, parce qu'on a parlé quand même des Asiatiques qui se rendent à Québec, dans le Vieux-Québec, des Sud-Coréens, parce qu'il y a eu une émission de télé, finalement, qui a beaucoup fonctionné. Donc, les gens ont décidé d'aller dans le Vieux-Québec pour se prendre en photo avec la fameuse Porte Rouge là, qui est à côté du Théâtre Champlain.
Oui.
Mais il y a d'autres touristes également. Ça ressemble à quoi?
Oui, écoutez, 70 % des touristes qui viennent à Québec viennent de du restant de la province de Québec. Ensuite, 9 % viennent du restant du Canada, principalement de l'Ontario. 8-9 % de touristes aussi viennent des États-Unis. Après ça, donc, viennent de la France, du Mexique, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et après ça de l'Asie, de la Chine et de la Corée principalement. Mmh.
Et on a parlé aussi des croisières, parce que vous avez quand même augmenté l'offre de croisiéristes à Québec. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent dans le vieux, dans le port de Québec. On veut augmenter d'ailleurs dans les prochaines années le nombre, donc passer de 230 000 à 400 000 dans les prochaines années. Est-ce que vous pensez que ça va peut-être faire en sorte d'avoir davantage de tourisme et comment vous allez faire pour que l'offre reste agréable pour les gens?
Bon, effectivement, le port de Québec va commencer dans quelques mois la construction d'un deuxième terminal de croisiéristes, donc pour s'assurer d'un meilleur embarquement et de débarquement des passagers. Et effectivement, on veut en avoir plus, mais une des stratégies qui est mise en place, justement, c'est que là, les bateaux viennent tous en ce moment en septembre et octobre. Mais là, ce qu'on veut, c'est les attirer davantage tôt dans la saison, en juin, en juillet. La ville est magnifique aussi à cette période-là. Et il faut réussir à convaincre les compagnies de croisière de prendre certains navires qui sont en Méditerranée, principalement l'été, pour les mettre dans notre fleuve Saint-Laurent, sur l'itinéraire Canada-Nouvelle-Angleterre, plus tôt en saison. Donc ça, c'est une des stratégies qui va être mise en place pour attirer donc davantage de croisiéristes. Mais à l'automne, là, septembre, octobre, on peut pas en prendre plus. Puis ça, on en est tout à fait conscient.
Parce qu'il y a, beaucoup, il y a trop de monde, puis à un moment donné, ça devient désagréable pour tout le monde aussi, là.
Oui, puis le surtourisme, les journées de fort achalandage ne sont pas créées que par les croisiéristes. Hein. C'est la combinaison des croisiéristes à certaines dates et des touristes. Les mois les plus populaires là, au Québec en ce moment pour les touristes, c'est août et septembre. Donc septembre, là, c'est une période vraiment achalandée.
On pensait que c'était plus
quand
l'été.
Quand on parle de surtourisme aussi, généralement, pour la ville de Québec, par exemple, autre solution qu'on met en place, l'été, on s'entend, on a assez de bons résultats. Maintenant, ce qu'il faut promouvoir, c'est nos saisons intermédiaires. C'est pour ça qu'à Québec, on met beaucoup, beaucoup d'énergie depuis quelques années, puis ça va durer encore longtemps, sur la promotion de l'hiver. Bon, on a un hiver, qu'on aime ou pas, on a un hiver, et on veut l'exploiter, entre guillemets, le plus positivement possible. C'est-à-dire qu'il faut attirer du monde chez nous, dans la période hivernale, on a beaucoup de neige, contrairement à d'autres régions du Québec, des fois, qui en ont moins. Alors ça, on veut l'exploiter. Hier, j'expliquais à l'éditeur de New York Times qu'on a un hôtel de glace, comme en Europe, là, comme en Finlande, en Norvège. On en a un, le seul en Amérique. Il est en banlieue de la ville de Québec. Alors, juste ça, il fallait y voir les yeux, puis il disait, c'est clair qu'il faut qu'on aille voir ça.
Oui, puis c'est vrai que c'est peut-être de proposer d'autres choses aussi parce que il y a des gens qui vont aller faire un tour chez vous dans les prochains jours. Ils vont vouloir faire la tournée du Vieux-Québec, aller voir le château Frontenac. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre si on veut aller faire un tour à Québec pour peut-être sortir des sentiers battus, Éric Bilodeau?
Ben oui. Alors, écoutez, à Québec, c'est sûr, là, les gens marchent dans le Vieux-Québec et tout ça, là, c'est ce qu'on appelle un peu les classiques, mais il y a plein d'autres choses à découvrir. D'abord, on a deux musées d'État, quand même, le Musée de la civilisation et le Musée des beaux-arts du Québec. Donc, deux endroits magnifiques avec des expositions très populaires cet été. Et on a aussi certains quartiers en émergence, hein, le quartier Saint-Roch, la rue Magoire à Sillery. Et on a toute la banlieue de Québec. À une demi-heure d'auto du centre-ville de Québec, 40 minutes d'auto, on est en pleine nature. Même dans un parc national à Duchesnay ou dans un parc national de la vallée de la Roque-Cartier. On peut faire du plein air, du canot, du kayak. Donc, c'est toute la variété. L'île d'Orléans. Allez voir les producteurs, les maraîchers sur l'île d'Orléans.
Mais là, c'est le temps des fraises en plus.
Ben oui, allez prendre un verre de cassis chez Cassis Monin et Fille. Et de la pointe de l'île d'Orléans, on a un point de vue magnifique sur Québec. La fameuse chute Montmorency, qui est l'attrait numéro 2 ou numéro 3 de mémoire à Québec, qui attire des milliers de touristes à chaque été, auxquels on peut faire des via ferrata. On peut même traverser sur via ferrata exactement au-dessus de la chute. Alors ça, ce sont toutes des activités qu'on peut faire, puis qui souvent sont moins connues. Les gens connaissent le Vieux-Québec, mais la ville de Québec offre plein d'autres choses à faire. On peut facilement y passer 2-3 jours pour les Québécois, entre autres.
Éric Bilodeau, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, vous êtes un bon ambassadeur pour la ville de Québec.
Et au plaisir. Venez nous voir. Bonne journée.
Bonne journée à vous, directeur des communications et du marketing à l'Office du tourisme de Québec. Quand même 4,7 millions de touristes à Québec, oui, durant la belle saison, mais aussi, comme il mentionnait, en août et septembre. Donc, ça peut causer, évidemment, quelques congestions. Puis, on va en parler, justement, de surtourisme avec nos deux invités, Jadrino Huot et Lydiane Saint-Onge, parce que vous avez beaucoup voyagé tous les deux. Jadrino, 49 pays, Lydiane, 75 pays. En ce moment, là, c'est quoi la tendance? Où les gens vont, Lydiane?
Ben, en fait, le Portugal, justement.
Et oui, je suis allée.
Oui, c'est ça. Ben, le Portugal est une des destinations qui, de ce que je vois de la tendance, est une des plus populaires. On avait l'Islande, mais dû au fait que Wow Air a fait faillite, là, on a les billets d'avion qui sont un petit peu moins accessibles, donc on voit une diminution peut-être du tourisme en Islande. Ça, c'est le Portugal étant une grande destination. On a l'Indonésie avec l'île de Bali, on a la Thaïlande. Donc, moi, pour y être allée il y a 5 ans déjà, je voyais déjà du surtourisme. Maintenant, ça a beaucoup changé. Comme l'île de Bali, c'est rendu un peu une île américaine. Et j'entends beaucoup les touristes se plaindre de ça. Donc, on voit aussi le visage du pays qui change un peu à travers l'afflux de tous les touristes qui viennent dans leur pays. Là.
Donc, ça manque, ça perd de la culture.
Exact,
aussi,
ça perd de l'authenticité. Ouais. Et c'est une conséquence directe des touristes de masse.
Jadrine Uwa, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses? Quelle tendance on voit là, justement dans le tourisme de masse?
Ben, je crois que les touristes ont la mauvaise habitude d'aller tous au même endroit ou presque. On lisait récemment dans le Figaro que 95% des gens se concentraient dans 5% des endroits touristiques à travers le monde. Donc, ça veut dire qu'il y en a 95% qui est sous-exploité, qui est en sous-tourisme. Donc, pourquoi pas en profiter de ça, sortir des sentiers battus, essayer, comme M. Bilodeau le disait, de sortir de la haute saison, aller dans les saisons charnières, ou si vous devez y aller pour différentes raisons, durant la haute saison, tenter de voyager ou de visiter tôt le matin ou tard en après-midi où les groupes de touristes vont être habituellement plus absents. Là. Donc, il y a toujours moyen de moyenner, peu importe où on est, mais il faut peut-être adopter des stratégies différentes.
Oui, bien c'est ça. Puis je comprends aussi que quand on regarde les guides, on va sur Internet également, on voit les belles images de Barcelone, de Venise, l'Islande, les glaciers, tout ça. On dit « Ah, c'est magnifique, on veut y aller ». Mais on arrive sur place, puis on se rend compte qu'effectivement, il y a tellement de gens que c'est pas agréable. Donc, on va tenter dans les prochaines minutes de vous donner peut-être des petits trucs, des conseils et peut-être même d'autres destinations. Parce qu'en place d'aller à Dubrovnik, il y a peut-être d'autres endroits qu'on peut aller qui pourraient être, entre guillemets, je le dis similaire, mais vous pouvez voir des beaux points de vue aussi. Alors à 10h17, on s'arrête quelques instants et on prend toujours vos appels au 514-790-9850, 514-790-9850. Est-ce qu'il y a des solutions pour contrer le tourisme de masse, qu'on appelle également le surtourisme, avec Jadrine Uwa, qui est chroniqueur voyage et producteur de la série Passeport pour le monde, et celle que vous connaissez également, Lydiane Autour du monde, Lydiane Saint-Onge. On parlait de différentes destinations qui sont extrêmement populaires et ça a un effet dévastateur, il faut le mentionner, sur l'économie locale également.
Exactement. Moi, je ne sais pas, Jadrino, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, là, mais de mon côté, j'ai beaucoup remarqué, en fait, qu'on a une augmentation assez importante des mendiants dans la rue. Donc, parce que les gens, les locaux, vont remarquer que c'est ultra payant de mendier dans la rue, parce que nous, on se sent mal en tant que touristes. On se dit, mon Dieu, ils sont peut-être un peu plus appauvris, on va leur donner un petit peu d'argent, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on change la face de l'économie. Et on voit ça un peu partout dans les pays qui sont très affluents en termes du nombre de touristes. Donc, oui, ça change la face de l'économie. Et par exemple, j'ai un ami qui habitait à Barcelone pendant un an et il disait que les appartements peuvent tourner jusqu'à 4 000, 5 000 par mois. Mais le salaire des Espagnols, en général, c'est environ 2 000 par mois. Donc, ils ont de la difficulté à se payer un appartement parce qu'en fait, les touristes envahissent tellement Barcelone que les prix ont augmenté. Maintenant, ils ont de la difficulté à se louer un appartement dans leur propre ville. Fait que oui, ça affecte l'économie, puis de différentes façons. On voit les gens qui quittent la main-d'œuvre locale, qui quittent, par exemple, on a dans certains pays des gens qui font de la vaisselle, de la poterie, des petits bracelets et qui vont, par exemple, devenir guides, qui vont travailler auprès des touristes parce que c'est plus payant avec les pourboires, etc. Donc, on change aussi ce visage-là du pays.
Il y a une culture qui se perd aussi.
Exactement. Ouais. On perd un petit peu le côté authentique, encore une fois. Là. Ouais. Mais il y a quand même du positif, il faut se le dire. Le surtourisme, on tape sur la tête des touristes, mais il y a du positif dans l'économie. Ça aide des pays, mais bien sûr, je pense que faut y aller responsablement quand on voyage dans ce genre de pays-là.
Et y aller responsablement, c'est aussi peut-être trouver des solutions, comme Jadrino, tu le mentionnais tantôt, d'aller, oui, à ces endroits, mais de trouver des façons de faire. Si tu veux aller visiter Barcelone, ben, y a peut-être des trucs que tu peux faire à l'avance, c'est-à-dire payer tes billets à l'avance, prendre des rendez-vous, aller dans d'autres quartiers également.
Entre autres, je parlais des saisons et des horaires charnières tantôt, mais vous parlez beaucoup de Dubrovnik depuis le début de l'émission, mais juste à côté de la Croatie, il y a la Slovénie, il y a le Monténégro, qui sont beaucoup moins surpeuplés en termes de tourisme. Voilà. Puis, il y a autant, sinon plus de belles choses à faire dans ces pays-là. Parfois, on a tendance à vouloir aller vers le populaire, qu'on soit influencé par les réseaux sociaux ou non, alors qu'il y a tellement d'autres choses à visiter. Regardez les Québécois, c'est quoi l'automatisme quand on parle destination soleil? C'est toujours Mexique, Cuba, République dominicaine. Mais Antigua, par exemple, Sainte-Lucie, Aruba, ce sont des endroits merveilleux aussi, mais on dirait qu'on n'a pas tendance à déroger de la masse de ce que tout le monde fait pour embarquer dans cette espèce de bateau-là. Que tout le monde le fait, fait le don. Comme
mais il n'y a pas une rassurance aussi, Jadrino, là-dedans? J'ai l'impression de dire, hey, regarde, moi, je connais le Mexique, ma belle-sœur est allée, tel endroit, je vais y aller parce qu'il y a une autre personne, j'ai eu de bons commentaires. C'est une rassurance d'aller dans ce type de pays aussi.
C'est un bon point que tu soulèves, effectivement. Par contre, d'un autre côté, comme Lydiane le dit à maintes reprises, on perd le côté authentique, ça dénature l'expérience. Et justement, en parlant d'expérience, c'est difficile d'apprécier pleinement une visite quand on voit au Mexique, puis qu'on veut peut-être se sentir dépaysé, mais que tout le monde parle québécois ou qu'on retrouve de la poutine sur la plage ou des choses du genre. J'exagère à peine. Là. C'est justement ce côté-là. Moi, quand je voyage, je sais que j'aime sortir des sentiers battus parce que je veux vivre, je veux connaître ce que les gens sur place vivent. C'est pour ça que je me déplace. C'est pour être dépaysé. C'est pour connaître. C'est pour apprendre. C'est pas pour être comme chez nous. Sinon, je resterais chez moi.
Est-ce que vous êtes le genre à faire la file d'attente pour aller voir un endroit, un bâtiment, une activité, un restaurant?
Très, très rarement.
Oui.
Je suis allergique à ça, je vais t'avouer. Puis même dans les endroits les plus populaires, il y a des endroits où il y a toujours façon là, de trouver un moyen. Je vais vous donner deux exemples. À Petra, quand je suis allé, bon, c'est pas tout le monde qui va faire ça, je le comprends, mais j'ai dormi dans ma voiture, dans le stationnement, pour être le premier arrivé au guichet. Quand le petit guichetier a enlevé la planche de bois, il a failli tomber à la renverse parce qu'il n'avait jamais vu quelqu'un à 6h moins quart être devant son guichet. Mais j'ai eu le site de Petra à moi seul pendant 45 minutes. Les châteaux de la Loire, je pense qu'à Chenonceau, il y a 1 à 2 millions de visiteurs par année. Mais au lieu de faire la file pour voir le château de l'extérieur comme tout le monde, ben j'ai loué un canot et on a descendu la rivière Cher pour passer en dessous du château et c'était une expérience incroyable. Et si vous aviez vu les gens saliver sur le bord des rives pour dire « Hey, j'aurais aimé ça, faire ça moi aussi », il y a toujours moyen de moyenner. Mais encore là, faut savoir s'adapter puis il faut savoir aussi faut connaître où on s'en va. Faites des recherches. C'est facile de trouver des alternatives, des sites qui sont similaires, pour ne pas dire aussi riches en termes de splendeur.
Et peut-être même plus des fois quand on fait une recherche
oui,
plus grande.
Ben oui, absolument. Puis des exemples comme ça, j'en aurais des milliers à vous raconter.
Et on va prendre quelques appels et aussi des courriels du public. Il y a Cassandra qui nous écrit et qui nous écoute d'ailleurs sur le web en direct d'Amsterdam. Bonjour Cassandra. Bonjour aux gens qui nous écoutent également via l'application Cogeco. J'ai récemment déménagé ici et le surtourisme mais très important. La ville reçoit annuellement 19 millions de touristes, ce qui représente la population entière des Pays-Bas, tellement que l'Office du tourisme d'Amsterdam a décidé de faire la promotion de la ville pour éviter d'avoir plus de touristes. Donc, on arrête complètement. Il y a tellement de touristes dans le centre historique que c'est parfois désagréable car la majorité sont occupés à se prendre en selfie et ne regardent pas la circulation. Et évidemment, ça peut causer plusieurs problèmes, mais d'arrêter de faire la promotion d'une ville, d'un pays, d'un secteur... Je trouve ça quand même assez drastique, Diane, comme façon de faire.
C'est définitivement drastique, mais peut-être que c'est nécessaire dans leur cas. Moi, je dirais juste de peut-être faire la promotion, comme la Ville de Québec le fait, mais de faire la promotion de d'autres saisons. Parce qu'on le sait, dans n'importe quelle ville importante, on va avoir une saison très ciblée de 1 à 2 mois qui va être ultra touristique. Mais moi, j'encourage toujours d'essayer de sortir un peu de cette saison-là et d'y aller. Par exemple, quand moi, je suis allée au Portugal, je suis allée en début juin. Début juin, il fait très beau, mais il n'y a encore pas beaucoup de touristes. On est dans une belle saison. En fait, la température est même parfaite, moi, je dirais, puisque durant l'été, il peut faire chaud.
Bien, surtout dans le sud et même dans le centre du pays, dans la Lake Tenjo, il fait extrêmement chaud. Là. C'est 40 degrés.
Je trouve que ça vaut la peine de peut-être juste regarder, s'informer, comme on disait, de s'informer sur le pays et de regarder justement c'est quand les saisons qui sont un petit peu plus basses et y aller durant ce temps-là.
Mais Lydiane soulève quelque chose de très intéressant parce que moi, quand je suis allé en Turquie, par exemple, la haute saison finit le 31 octobre. Je suis allé le 1er novembre. Là. C'est comme le yogourt. Là. Ça ne devient pas périmé dans le frigère du jour au lendemain.
Il n'y a pas de date de péremption.
Ben non, la neige ne commence pas à tomber dans la nuit du 31 au 1er. Puis, écoute, j'ai payé mon vol 730 $ aller-retour avec KLM. Là-bas, c'était super comme expérience, mais il n'y avait presque personne et les prix descendent. Donc, tout le monde en profite.
Exactement. Donc, location de voiture, hébergement, les prix sont plus bas, c'est vraiment plus avantageux.
Ça vaut la peine. On va prendre de vos appels d'ailleurs au 514-790-9850. On s'entretient avec Ginette. Bonjour.
Oui, bonjour. Nous, on parle dans exactement un mois pour notre peut-être dernière croisière, en tous les cas. Et puis, justement, on avait comme ville Ajaccio, en Corse, évidemment, et on y allait quasiment seulement pour ça. On l'a enlevé. On nous a remplacé ça par Alicante, une ville que je ne connais pas du tout, mais qui doit être très jolie.
C'est super, madame. J'ai habité à Alicante. Vous allez adorer.
Oui,
oui, oui, il y a vraiment une belle promenade. Je crois qu'il y a 6 millions de petites pierres qui ont été rassemblées pour faire comme des vagues en espèce de terre cuite. C'est joli. Il y a une très belle plage. Il y a un château sur un promontoire rocheux. Moi, j'ai habité là pour apprendre l'espagnol, justement, il y a plusieurs années. Et vous allez adorer. Et Ajaccio, pour ajouter à ça, là, la Corse est devenue victime aussi de son succès. Là, l'été, là, c'est surpeuplé.
C'est ça. On nous a dit, on nous a donné une raison, plus ou moins, mais moi, je suis certaine, j'ai dit, c'est pour ça. De toute façon, c'est pas immense, là. Fait que j'ai dit, les gens sont peut-être tannés de nous voir, puis là, ils ont enlevé ça. Mais par contre, toutes les autres, là, ça, Cherbourg, en tous les cas, je pense que ça va être pas mal beau.
Bien, vous allez faire un beau voyage, Ginette, en tout cas. Ça a l'air parti
mais
pour ça.
Savez-vous quoi aussi? C'est que nous, on essaie toujours, quand on arrive, puis que c'est possible d'accoster, puis qu'on peut se promener, toujours, on part toujours dans des petites rues pour pas être avec la foule. Parce que c'est pas, je sais, ça doit être effrayant, va arriver 2 000-3 000 personnes en même temps. Mais on profite de ces petites rues-là, puis souvent on fait des découvertes plus belles que les gens ont fait en excursion.
Oui, vous avez raison.
Ouais.
Ben, merci, Ginette, puis bon voyage.
Merci beaucoup.
Merci. Courriel de Martin, c'est quand le meilleur temps pour faire le tour de l'Europe et où devrais-je débarquer en avion en premier? Bonne question.
Lydiane, je ne sais pas si tu veux répondre, mais moi, de mon côté, c'est facile. Ce serait, je dirais, du début mai jusqu'à la mi-juin ou encore de la mi-septembre jusqu'à la fin octobre.
Ouais.
Et le meilleur endroit pour débarquer, ben, c'est Paris.
Oui,
pourquoi?
Moins cher.
Parce que, ben, c'est ça, c'est moins cher parce qu'il y a beaucoup plus de demandes vu que les Québécois, c'est leur premier point de destination. Et ensuite, en Europe, on a tellement maintenant des compagnies arabes comme EasyJet ou Ryanair qu'on peut voler de Paris à Nice pour 79 $ là, ou aller à Édimbourg pour 42 $. Donc, débarquer dans un endroit et ensuite avec le système ferroviaire qui est très bien développé en Europe ou des compagnies arabes comme ça, là, c'est idéal.
Merci de votre appel et merci également de vos courriels 514-790-9850. On poursuit la discussion après la pause. Est-ce qu'il y a des solutions pour contrer le tourisme de masse? Et aussi peut-être quelques suggestions vacances. Tiens, on va se faire plaisir. On s'intéresse ce matin au surtourisme, ce qu'on appelle le tourisme de masse, donc des endroits ultra populaires. Et il y en a un en Italie, là, vraiment, c'est la ville romantique. C'est Venise. On en a parlé au début de l'émission. Et Benoît, vous êtes allé à Venise 3 fois?
Oui, bonjour, bien le bonjour à tous les trois. Merci pour votre jolie voix ensoleillée, Madame Catherine.
Oh,
c'est génial.
Que vous êtes donc fin, Benoît.
Oui, moi, je suis allé 7 fois en Europe, dont 3 fois à Venise. Et peut-être que je suis un gars de foule, mais ça m'a jamais emmerdé, si on peut dire, ou embêté, moi, la foule. La dernière fois, je suis allé évidemment à Barcelone voir la belle Sagrada Familiale, qui est géniale. Et puis là, moi, je me demandais, bon, malheureusement, je m'arrête un petit peu parce que j'ai peut-être un début de cataracte avec mes yeux. Fait qu'imaginez, là, ça va un petit peu mal pour voyager. Je découvre la belle culture iranienne. Iriez-vous comme on fait sur Paris, aller seul, on se déplace en train ou vous iriez en voyage organisé, si je peux vous demander à vos invités? Avez-vous déjà fait l'Iran?
Je souhaiterais infiniment faire l'Iran et avant que peut-être il soit trop tard, mais j'adorerais faire l'Iran et j'ai entendu dire que d'y aller l'hiver pour le ski, c'est incroyable, mais définitivement, je crois que l'Iran est à découvrir et j'ai plusieurs amis qui sont allés et ils ont adoré, c'était super sécuritaire, même pour une femme seule, donc l'Iran est une destination à aller voir, je crois.
Jadrino?
Oui, c'est très haut sur... C'est très haut sur ma liste, moi aussi, l'Iran. Là, écoutez, si vous avez la chance d'aller là. Par contre, est-ce que le moment est propice là, avec ce qui se passe avec le nucléaire? On avait moi, je vous suggérais peut-être l'Ouzbékistan à la place. C'est peut-être dans le même sens. Mm-hmm. C'était sur la route de la soie. Vous allez voir des sites religieux tout aussi fascinants. Okay. Et ce sont des pays qu'on ne connaît pas. Et ne vous empêchez pas à cause de vos cataractes. Allez-y,
mais
pareil.
Oui,
il y a toujours les odeurs. Il y a toujours le contact avec les gens, les échanges et tout le reste et on peut s'adapter et voyager peu importe les saisons.
Et en voyage organisé aussi, c'est plus sécuritaire. Oui. Pour vous, c'est plus rassurant aussi. Il y a d'autres personnes, d'autres Québécois qui seront avec vous. Donc, il y a un guide également et sur place et avec vous pour le déplacement. Donc, profitez-en, mon cher Benoît.
Mais moi, l'idée, je vais vous dire, j'apprends toujours la langue du pays lorsque j'y vais. Et
ça, oui, c'est bien.
Disons aux gens que nous ne sommes pas accueillis et vus de la même façon à ce moment-là.
Vous avez raison.
Peut-être qu'on va passer par-dessus la foule. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens. Hein, moindrement qu'on veut sortir des gros centres, ben, le moindrement qu'on parle un petit peu la langue du pays, c'est les plus beaux échanges culturels, je crois, qu'on peut faire et les plus belles découvertes. Et la Russie, iriez-vous en Russie également?
Ben, demain
bien
matin,
sûr.
Écoutez, si vous m'invitez en plus, c'est certain, la Russie, c'est que c'est un énorme pays. On ne peut pas parler de la Russie, on peut parler de région de la Russie.
Oui, aussi, en effet.
Il y a tellement là, de possibilités en Russie, c'est splendide. Là. Moi, j'irais sans me poser de questions.
Alors, je pense que Benoît, il y a comme plein de beaux pays sur sa liste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et là, on va aller faire un tour à Bangkok, parler avec Joe qui nous écoute via Internet. Bonjour.
Bonjour, vous êtes mon quand j'ai les blues du Québec, j'écoute la radio, je vous écoute et puis c'est super agréable, c'est super le fun. Mon traitement anti-blues.
Oh, mais qu'est-ce qui vous amène à Bangkok, Joe?
Depuis plusieurs années, ben là c'est l'amour. En fait, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire ici et je travaille toujours en ligne en général, donc je travaille avec Internet. Et les premières années, j'étais un peu plus inquiet par rapport au fait que, bon, c'est la saison des pluies, est-ce que ça va être agréable? Je suis une personne qui adore la chaleur et le soleil. Et je vais vous dire, on a eu présentement à peu près une heure ou deux heures de pluie maximum, et c'est la nuit en général cette année ici en Asie du Sud-Est. C'est pas la même chose pour l'Inde, sauf que le Laos, la Malaisie, ce sont des pays à connaître. Il y a des plages extraordinaires, des îles folles. C'est fou, là, les endroits à voir. Les Philippines, c'est magnifique. Et je vais vous dire, ce que j'ai envie de dire à vos auditeurs, c'est oui, l'avion coûte plus cher, mais après, ça vous coûte beaucoup moins cher ici au niveau de l'hébergement, au niveau de la bouffe. Si vous avez quelques semaines devant vous, des fois, c'est pas nécessairement d'aller voir des bâtisses, des bâtiments. Moi, j'adore les gens, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, c'est les gens qu'on rencontre. On est complètement dépaysé par les gens. Avant, je voyageais beaucoup pour visiter des lieux touristiques, mais maintenant, c'est vraiment les gens, l'ambiance, les cultures différentes, et ça nous déniaise. Et on revient des fois au Québec et on entend les nouvelles, et bon, vous savez, un peu, les gens sont un peu plus frileux par rapport à d'autres cultures, à d'autres... Et quand on sort du pays, quand on se dépayse, on revient, on dit, on est tous des gens comme tout le monde, c'est tellement... Tout le monde est pareil, en fait. C'est juste de se promener, d'apprendre à connaître. Et quand on apprend, ça enlève toutes ces craintes et ces peurs-là qu'on a de quiconque, en fait. Donc, voilà.
Et le surtourisme se vit comment, Joe, à Bangkok?
Ben, c'est justement, venez maintenant, parce qu'il y a beaucoup moins de touristes maintenant, parce qu'avec les changements climatiques, bon, c'est peut-être moins le fun, parce que là, ils vont peut-être manquer un peu d'eau. Ça va être un peu plus difficile lors de la saison chaude, sauf que, plus chaude, ça, de l'été, leur été, en fait, sauf que il y a beaucoup, beaucoup moins de touristes, parce que les gens ont toujours appris que, bon, durant la mousson, durant la saison des pluies, ben, c'est pas le meilleur moment pour venir en Asie du Sud-Est. Et là, ça fait quelques années que c'est pas vrai, ça a changé. Aussi, également, autre chose que je déconseille, c'est, bon, je dis pas aux gens de prendre des risques, mais des fois, quand on va sur l'agence de voyage, voyage.gc.ca du Canada, mon Dieu, si vous voyez les avertissements qu'il y a pour les Philippines, pour la Thaïlande, pour le Laos, vous diriez jamais je mettrai les pieds là. Alors que pas du tout. C'est pas parce qu'il y a certaines zones de certains pays où c'est dangereux que c'est tout le pays qui est dangereux. La personne qui a appelé avant moi parlait de la Russie. On peut même plus parler, même s'il arrivait quelque chose dans une section de la Russie. Le sud de la Thaïlande, par exemple, il y a trois États, il faut pas aller parce que, bon, il y a des chicanes entre musulmans et bouddhistes depuis des années. C'est pas toute la Thaïlande, comme la Malaisie, c'est la même chose. Oui. Donc voilà,
c'est ce que je vais vous dire. Merci beaucoup de votre appel directement de Bangkok, mon cher Joe. Puis merci également de nous écouter via l'application que j'écoute.
Très agréable et je suis content que vous ayez du beau temps également au Québec.
Oui. Et il fait beau ici aussi.
Que j'aime et que je connais là-bas.
Merci beaucoup. Passez une belle journée. Donald, bonjour.
Oui, vous toi, vous allez bien?
Très bien, merci Donald.
Moi, le surtourisme, je l'ai vécu en 2012. On était à Venise, puis on n'avait évidemment pas réservé pour aller voir Saint-Marc, mais on l'a pas vu. Il y avait une lignée à peu près de 500 personnes en ligne. C'est complètement débile. Mais le surtourisme, on est poigné avec ça. Si c'est beau, tout le monde va y aller. C'est pas compliqué, mais c'est pas partie de la vie. Maintenant, j'ai une question à vous poser à vous et vos commentateurs. Nous, on s'en va en France en 2020, on fait un road trip une vingtaine de jours, là. Et puis, on va être 15 jours sur la Côte d'Azur. Quelle est la meilleure place pour s'installer, petit village, avec quelque chose de romantique, là, pas trop de monde, entre Cassis et Menton?
C'est assez précis.
Oui, c'est assez précis.
Moi, je vous dis, ça dépend toujours de vos préférences, mais il y a la Provence qui est pas loin, qui est beaucoup plus tranquille, mm-hmm. puis qui vous permet quand même de faire des allers-retours sur la Côte d'Azur de façon plus régulière. Donc, moi, je vous dirais, si vous faites un 20 jours, tout dépend de vos goûts et de vos autres intérêts, mais passez un bon 7-10 dans ce coin-là. Là.
Sinon, il y a la Côte Atlantique.
Saint-Raphaël, ça tu l'as lu?
Je ne pourrais pas vous dire.
Moi non plus, je ne pourrais pas vous dire. Mais il y a la côte atlantique aussi, à ne pas oublier, en France, là, du côté de Biarritz, Anglette, Osségor. C'est des beaux endroits où on peut surfer, si vous êtes un amateur de surf, mais il y a des belles plages.
Non, pas vraiment.
Je suis en 16
ans.
Surfez pas.
Mais vous pouvez être sur la plage quand même, Donald.
Sur la plage, c'est toujours agréable.
Hey, merci beaucoup, Donald. Passez un beau voyage. Il y a Michel également qui nous écrit qu'il est allé en Europe 13 fois l'an dernier. Sa plus belle découverte, c'est la ville de Lyon en septembre. Magique, et beaucoup de musées, les gens étaient sympathiques, le royaume de la gastronomie. À 20 minutes de la ville de Vienne, France, 2 heures de train de Genève, donc magique et pas surpeuplé, c'est peut-être à retenir également à Lyon. Et c'est ça aussi, c'est de faire des petites découvertes quand vous êtes dans un pays. Et on mentionnait, bon, on parle de plein de belles destinations et tout, mais on a reçu des courriels également de gens qui gardent, eux, leurs vacances, c'est d'aller dans le sud. Pourquoi? Pour se reposer. Et oui, ils vont aller faire un tour au Mexique dans des stations plus...
populaires.
Plus populaires, plus rassurantes. Aussi, mm-hmm. Et il y a une question de moyens aussi reliée à tout ça.
Définitivement. Puis je pense qu'il y a quelque chose de très rassurant, justement, à suivre cette tendance-là, à aller aux endroits où on le sait qu'il va y avoir d'autres Québécois, surtout si on n'est pas à l'aise avec la langue du pays. Donc, c'est normal. Je pense que ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est juste de donner quelques trucs pour ceux qui ont le goût d'éviter les foules, qui ont le goût d'aller connaître un peu la culture authentique, qui ont le goût de rencontrer des gens puis qui ont le goût d'être en dehors de cette grande foule touristique.
Oui, parce qu'effectivement, comme on le disait, ben, quand c'est spectaculaire, quand un endroit est magnifique, qui fait beaucoup parler, ben, on veut aller le voir, effectivement. Donc, essayons d'aller hors des sentiers battus. Mais chose certaine, je pense que nos auditeurs aiment beaucoup voyager. Ils avaient encore beaucoup de questions. On pourra refaire d'ailleurs une émission sur les voyages, certainement, d'ici la fin de l'été. Lydiane Saint-Onge de Lydiane Autour du Monde, merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, merci à toi.
Bonne destination au Québec.
Merci.
Pour cet été. Et Jadrino Huot, chroniqueur voyage et producteur de la série Passeport pour le monde. Merci, Jadrino, d'avoir été avec nous.
Merci à toi et merci à Lydiane aussi. Là, c'était
merci
fort
à toi,
agréable.
Merci, Jadrino.